Bonjour à tous, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Ce qui a été dit ce matin était très très intéressant, mais on va sortir de France et peut-être qu'on va sortir aussi de ce que la recherche nous dit sur les effets du redoublement, parce que ce que je vais vous inviter à faire, c'est un petit voyage en Europe sur les réglementations. Quelles sont les réglementations en Europe en matière de redoublement? Parce que en 2008, c'est la première fois, je pense, que la Commission européenne rédigeait une communication sur la problématique du redoublement. Donc c'est, à ma connaissance, la première fois, même si l'agenda européen de la coopération en éducation parle depuis très longtemps de la lutte contre l'échec scolaire et de l'abandon scolaire, c'est la première fois qu'il y avait une communication où il était vraiment écrit clairement « la recherche nous dit que ». Et la recherche nous dit qu'il y a des enfants qui redoublent beaucoup dans certains pays, qui redoublent peu dans d'autres, que ça coûte cher, et que ceux qui redoublent malheureusement ne vont pas bénéficier de cette situation, qu'au contraire, ils auront des résultats plus faibles que ceux qui n'ont pas redoublé. Et c'est à partir de là que la Commission européenne nous a demandé, à Euridis, au réseau Euridis, parce que nous avons une unité dans chaque pays d'Europe, d'essayer d'en connaître un peu plus sur les politiques nationales en matière de redoublement. Quels sont les critères utilisés? Quelles sont les réglementations, les intervenants? Et d'essayer de voir, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous maintenant, est-ce qu'il y aurait un lien à faire entre les réglementations et les statistiques en matière de redoublement? Alors tout d'abord, on est passé déjà sur ces statistiques ce matin. On voit qu'il y a effectivement des taux de redoublement très différents d'un pays à l'autre. On a insisté aussi sur le fait que le redoublement serait en diminution, il l'est certainement en France, mais ce n'est pas vrai partout. On peut voir qu'il y a des pays où le redoublement entre 2009 et 2012 a augmenté légèrement. Donc la diminution du redoublement n'est pas généralisée en Europe. Il y a des pays où on voit qu'il est maintenu, ou en tout cas qu'il peut même augmenter. Je m'arrête très brièvement sur cette carte, parce que quels sont les critères d'accès à l'école primaire ? C'est clair que l'âge de début de l'école primaire varie d'un pays à l'autre. Ça peut être 5 ans, ça peut être 6 ans, ça peut être 7 ans. Mais il y a un âge théorique défini. Alors la question qui est ici, c'est est-ce que les enfants qui ont atteint l'âge officiel d'entrer à l'école primaire vont rentrer à l'école primaire? Eh bien, on voit que ce n'est pas le cas partout. Il y a des pays où il y a des critères de maturité, où on peut garder un enfant, le retenir dans une classe préparatoire ou dans une classe pré-primaire, s'il est jugé qu'il n'a pas la maturité nécessaire. Et ces taux peuvent être relativement importants, je ne m'arrêterai pas à ça ici, mais il faut quand même reconnaître que lorsqu'un enfant est retenu un an de plus dans une classe préparatoire alors qu'il a l'âge officiel d'entrer à l'école primaire, on peut assimiler ça à un redoublement. Alors quelles sont les réglementations? Parce que est-ce qu'il y a des pays qui pratiquent la promotion automatique? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'on a l'autorisation de faire doubler les enfants? Bon, à gauche, vous avez l'école primaire pour le primaire. À droite, vous avez le secondaire. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la promotion automatique, dont on parle toujours beaucoup, officiellement dans les réglementations, elle est assez rare. Donc, il y a très peu de pays qui ont inscrit dans leur réglementation « on pratique la promotion automatique ». On ne voit ça qu'en Islande, en Norvège. Au Royaume-Uni, en fait, il n'y a pas de réglementation. Ce n'est pas une réglementation écrite, mais il est stipulé que tout doit être fait dans le curriculum pour adapter l'activité au niveau des enfants et ne pas le séparer de son groupe d'âge, ce qui revient à ce que nous avons assimilé à une promotion automatique. Partout ailleurs, le redoublement est possible. Ce qui fait la différence entre les pays, c'est que dans certains pays, dans beaucoup de pays même, il y a des restrictions au redoublement. Alors, quelles sont ces restrictions? Au niveau de l'école primaire, ce sera le nombre de fois qu'on peut redoubler sur sa scolarité. Donc, pas plus d'une fois, pas plus de deux fois. Ou alors, ce sera pas avant la troisième ou la quatrième année. C'est le cas de la Pologne, par exemple, pas avant la troisième année. Mais la France vient d'aller dans ce sens-là, ce qui n'était pas le cas en 2010 quand on a mené l'étude. Ou alors, ce n'est pas entre la première et la deuxième année, parce que c'est trop tôt, ce n'est pas bon pour l'enfant. Ou ce n'est pas à l'intérieur d'un cycle. Donc, des restrictions qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Mais alors, vous voyez ici, si on reprend les pourcentages, j'ai mis en couleur trois pays qui ont une réglementation quasi identique en matière de limitation. Pas plus d'une fois ou deux sur la scolarité primaire. Et vous voyez qu'on peut avoir des taux de redoublement très très différents d'un pays à l'autre. Ensuite, on peut s'intéresser, mais quels sont les critères qui sont mis en place ? Alors, il y a l'absentéisme. Dans quelques pays, un enfant qui a été absent trop longtemps va être peut-être invité à redoubler parce qu'il n'a pas pu voir la matière. Mais on va s'arrêter surtout sur l'évaluation basée principalement sur les notes et l'appréciation générale. Alors, l'appréciation générale, c'est globalement, l'enfant a bien la maturité, il a peut-être des notes un peu faibles, mais nous considérons qu'il est capable de suivre le programme de l'année prochaine. Donc, si il est posé que l'enfant sera capable de suivre le programme de l'année prochaine, sa personnalité, son ouverture, les progrès qu'il a réalisés, enfin, tout ça vous connaissez bien parce que la France est concernée, c'est l'appréciation globale. Il y a d'autres pays où on va se fixer principalement sur la note. L'enfant a une note insuffisante dans 3 matières. L'enfant a une note insuffisante dans 4 matières. S'il faut, on va revenir sur l'appréciation globale. Mais la note intervient fortement. Et puis, il y a les pays qui offrent des possibilités de rattrapage. Nous sommes au primaire ici. Donc, l'enfant va pouvoir suivre des cours supplémentaires pendant l'été. Il va avoir un soutien pendant l'été, voire repasser certains examens. Et il peut apporter la preuve qu'il a le niveau pour passer. S'il peut apporter la preuve par le soutien pédagogique qu'il a reçu pendant l'été qu'il peut passer, il pourra passer. Alors, regardons maintenant nos taux de redoublement à nouveau. Les pays où c'est l'appréciation globale, ce sont tous des pays où le taux de redoublement est assez élevé. Les pays où on est centré principalement sur la note, ils sont un peu plus roses, c'est le cas de l'Allemagne et de l'Autriche. Et puis je vous ai mis les pays qui sont en jaune, c'est les pays où les critères ne sont pas définis au niveau central. Il n'y a pas de réglementation ou de recommandation faite. C'est l'autonomie locale ou l'autonomie de l'établissement qui va définir ces critères. C'est principalement le cas au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et vous voyez que là aussi, les taux de redoublement peuvent énormément varier d'un pays à l'autre. Regardons maintenant les pays où un rattrapage est organisé pendant l'été pour permettre aux enfants de suivre des cours supplémentaires et de se mettre à niveau. Vous voyez que les pays qui organisent ce type de rattrapage ont généralement un taux de redoublement assez bas. Je vais passer sur celui-là parce qu'il est au secondaire inférieur. Alors maintenant, qui intervient dans le redoublement du point de vue des intervenants professionnels ? Il y a l'enseignant de la classe, il y a les autres personnels enseignants de l'école, le chef d'établissement. Alors on voit que les enseignants proposent ou décident du redoublement. Ils peuvent le faire avec les autres enseignants de l'école qui s'occupent aussi de ces enfants. Ce ne sont que les enseignants qui décident, je pense que c'est le cas en Irlande et en Italie. La décision va se prendre avec le chef d'établissement dans pas mal de pays, et en Suède, c'est d'ailleurs le chef d'établissement qui va prendre la décision. Mais en gros, c'est l'école qui va décider, qui a la décision du redoublement. Mais les parents, alors ? Alors, ce qu'on sait, évidemment, les parents, partout, ils sont informés, ils sont consultés pour parler des progrès de l'enfant de façon très régulière. Mais dans quelques pays qui sont ici en rouge, ils peuvent intervenir. Alors quand ils peuvent intervenir, comment peuvent-ils intervenir ? À nouveau, les pays qui sont en rouge, ce sont les pays où les parents interviennent pour porter un recours au redoublement. Donc ils interviennent a posteriori sur leur refus ou la demande d'explication sur ce redoublement qui est décidé, proposé par l'école. Il y a 2 pays... où il faut l'accord clair des parents, il faut le consentement parental pour pouvoir pratiquer le redoublement, c'est le Royaume-Uni et la Belgique. Alors, à nouveau, regardons les statistiques, et vous voyez que la Belgique, où les parents doivent donner leur consentement, et le Royaume-Uni, où les parents doivent donner leur consentement, à nouveau, on trouve des taux de redoublement très différents d'un pays à l'autre. Manifestement, en Belgique, non seulement on le propose plus souvent, mais les parents suivent l'équipe éducative et leur accordent leur confiance. Alors les conclusions, en gros, on le sait, les pratiques varient beaucoup d'un pays à l'autre. il n'y a pas de relation claire entre les réglementations et le redoublement. Il faut donc chercher ailleurs les explications. Les explications, elles vont certainement dépendre beaucoup plus de la culture, je dirais de la société, de toute la communauté éducative des enseignants, que des compétences réelles des enfants. Et ce n'est peut-être pas... Il faut remettre en cause la représentation et peut-être plus tant s'interroger sur les réglementations, ajouter des décrets, ajouter des règlements qui vont limiter encore plus les possibilités de redoublement. On voit que ça n'a pas beaucoup d'effet et en tout cas que des réglementations identiques entre pays ne vont pas conduire forcément au même résultat. Alors une dernière information que je tenais à donner ici pour conclure ma présentation. Les pays que vous voyez là en rouge, c'est une analyse qu'on a menée à partir d'une étude sur l'enseignement de la lecture. Ce sont des pays où la pratique du redoublement est très faible. Je tiens d'abord à le signaler pour nous rapprocher de la problématique du redoublement. Donc les pays qui sont là, ce sont des pays qui ont un taux de redoublement faible. Mais s'ils sont en rouge ici, ce n'est pas pour cette raison-là. C'est parce que dans l'étude sur la lecture que nous avons menée, on avait interrogé les pays sur les réglementations en matière de disposer d'un enseignant spécialiste des difficultés d'apprentissage au sein de l'école pour venir en soutien lorsque l'enseignant généraliste en a le besoin pour aider des enfants en difficulté. Donc c'est un enseignant volant qui est dans l'école ou dans deux écoles, mais qui est à la disposition des enseignants généralistes pour venir à leur aide lorsqu'ils voient qu'il y a un élève qui est en difficulté d'apprentissage. Puis vous avez un deuxième groupe de pays. Il n'y a pas d'enseignants spécialistes, mais il y a des tests diagnostiques qui sont organisés en début d'année pour outiller les enseignants du niveau des enfants qu'ils accueillent et pour ainsi savoir mieux cerner le niveau des enfants. Et puis dans le troisième groupe, il n'y a pas de recommandation au niveau central. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans le premier et le deux groupes, il peut y avoir dans le curriculum des stratégies de compréhension de la lecture. Donc on a les trois groupes. Il n'y a pas, on a mis ça en relation avec le pourcentage d'élèves peu performants à PISA à 15 ans en lecture. Donc des élèves qui ont des résultats très faibles à PISA en lecture. Et vous avez les pourcentages qui sont indiqués là-bas. Il y a une différence significative entre le premier groupe et les deux autres groupes, mais il n'y a pas de différence entre les deux derniers groupes. Donc le fait de disposer dans son école d'enseignants qui ont étudié particulièrement comment réagir aux difficultés d'apprentissage des élèves et de les mettre à la disposition des enseignants généralistes semble manifestement être un élément qui diminue fortement le taux d'élèves faibles en lecture. Ce sont particulièrement des pays qui ne pratiquent pas le redoublement, alors que les tests diagnostiques qui donnent aux enseignants les lacunes des élèves, l'hypothèse est que ça ne les outille pas forcément de la bonne adaptation de leur enseignement à ces élèves. Ok, je sais qu'il a des problèmes, mais je ne sais pas quoi faire. Et le fait que les curriculums ont mis... qu'il y a eu une volonté politique pour mettre dans les curriculums l'importance des stratégies de compréhension en lecture, l'importance de telles activités, semble quelque chose qui est partagé par quasi tous les pays européens, mais à nouveau, le politique l'a inscrit. Qu'est-ce que l'enseignant peut en faire dans sa classe s'il n'est pas outillé pour s'en servir correctement? Et ça montre que les efforts au niveau du politique ne sont plus au niveau du curriculum, mais sont certainement au niveau de la formation des enseignants et des aides qui leur sont apportées. Ce matin, Agnès Florin a rappelé combien l'aide au sein de l'école et non à l'extérieur de l'école était importante. Voilà, je vous remercie.